Super. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est formidable ce qu'on a vécu ce matin, hein, n'est-ce pas? On était vraiment dans la présence du Seigneur. En fait, c'est un peu le résumé de mon message. Alors, je me demande si je fais bien de parler. En tout cas, moi, j'ai pris la provision pour ma journée hein, ce matin au moment de la louange. Quoi. Ça m'a vraiment nourri. Voilà, je suis plein. Et s'il y avait encore quelque chose d'autre, je dirais, Seigneur, pas plus, hein. Je vais défaillir. Alors, ce matin, on va continuer, mais puisque je suis là, hein, vous allez malgré tout m'écouter. On va continuer notre itinéraire dans le livre des Proverbes qu'on a commencé. Nous avons eu déjà deux prédications, une de Fred sur le préambule du livre des Proverbes, et puis une la semaine dernière avec Loïc. Non, c'est Kevin qui va me tchac-tchac. Il va me passer les diapos. et une donc de Loïc qui nous a parlé sur le personnage du paresseux qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Alors, je vais retaper sur le clou de mon ami Fred. Il est là, Fred ? Oui, il est là. Voilà. Et donc, je vais, parce que moi, je ne suis pas allé plus loin dans ma lecture que le premier chapitre du livre des Proverbes. Je vous rappelle que Fred nous a exhortés à lire. Il y a 31 chapitres, vous savez, dans le livre des Proverbes, et au mois de mars, ça tombe bien, il y a 31 jours. Alors, un chapitre par jour, et on a fait le tour du livre des Proverbes. Enfin, quant à moi, je ne suis pas allé plus loin que le préambule. Alors, je voulais donner mon éclairage, vous savez, Fred a donné son éclairage, moi je vais donner mon éclairage. On a quatre évangiles qui donnent des éclairages différents sur ce que Jésus a fait pour nous. Eh bien, vous avez maintenant, non pas l'évangile, mais la lecture de Norbert du préambule du livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, c'est un livre extraordinaire, n'est-ce pas? Parce qu'il a la prétention de nous enseigner la sagesse, pas moins que cela, hein, par le biais de proverbes, par le biais de dictons, par le biais de petites paraboles, de comparaisons et de maximes. C'est ce que le préambule du livre nous dit. Et donc nous avons cette diapo. Donc c'est la version du semeur que j'ai choisie. Donc les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Voilà, ça c'est le programme du livre des Proverbes. Nous enseigner la sagesse, n'est-ce pas? Voilà. Alors à qui s'adresse le livre du proverbe? Eh bien, on s'aperçoit que le livre s'adresse à toutes sortes de gens. D'abord à tous les hommes en général, mais plus précisément aux gens sans expérience, aux jeunes, et puis en même temps aussi aux sages et à l'homme avisé. Alors figurez-vous, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, si vous êtes un jeune, si vous êtes un homme avisé, si vous êtes un sage. Et en tout cas, je pense que le livre des Proverbes s'adresse à chacun d'entre nous, en tout cas ce matin. Alors, le livre des Proverbes veut nous enseigner la sagesse, mais c'est quoi la sagesse exactement? Voilà. Alors on a des indices dans le texte. Comprendre les paroles prononcées avec intelligence. Agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Du bon sens, la connaissance et le jugement, c'est-à-dire l'art de faire des choix entre le bien et le mal. C'est ça que ça veut dire, le jugement. Un savoir-faire, l'art de bien se conduire. Alors, on pourrait grouper ces caractéristiques de la sagesse en plusieurs blocs, si vous voulez. La sagesse, eh bien, c'est comprendre ce qu'est la vie, c'est comprendre et discerner le bien et le mal, c'est en même temps un savoir et un savoir-faire. Un savoir-faire, vous vous rappelez, lorsqu'il y a la construction du tabernacle, Dieu choisit des hommes, Betsalel, qui étaient remplis de sagesse. Pour construire. C'était des artisans qui savaient maîtriser leur métier. Et l'art de bien se conduire. Alors en fait, on pourrait résumer tout cela, la sagesse. Être sage, c'est savoir appliquer dans la vie concrète des principes sensés et fiables. La sagesse et la loi fonctionnent de manière différente. La loi fonctionne comme des règles. Dans les 10 commandements, c'est marqué, tu ne voleras pas. Il n'y a pas besoin de sagesse. Il y a juste besoin d'obéissance. Mais la loi, elle ne prend pas en compte toutes les situations diverses et variées que nous rencontrons dans notre vie. Comment faire les bons choix? Comment discerner les marques sur la route que nous devons prendre? Comment choisir tel travail ou un autre travail? Comment choisir le lieu où on doit vivre? La loi ne nous dit rien de tel. Comment gérer une relation? La loi ne nous apprend pas comment gérer une relation. Tous les domaines de la vie sont impactés par la sagesse. Et on verra, au fur et à mesure que nous déroulons le livre des Proverbes, que le proverbe parle pour le couple, que les proverbes parlent pour l'amitié, que les proverbes parlent pour le travail, que les proverbes parlent pour la gestion des biens et de l'argent, comment gérer son argent. Les proverbes parlent sur l'usage de la parole, comment bien parler. Les proverbes aussi impactent nos défauts, et Loïc nous a parlé de la semaine dernière du paresseux. Nous parle aussi des vertus, la droiture, l'honnêteté. Voilà. La loi est stricte. La loi dit c'est bien ou c'est mal. La sagesse, elle navigue dans des situations plus complexes. Et le Seigneur nous a donné cette sagesse pour que nous puissions naviguer dans les situations complexes. Il n'y a jamais deux situations complètement identiques dans nos vies. C'est pourquoi même, il y a ce petit clin d'œil dans le livre des Proverbes, lorsqu'on lit le livre des Proverbes, on lit des proverbes qui sont contradictoires. Par exemple, le proverbe 26, verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. » Et puis, le verset suivant, « Réponds à l'insensé selon sa folie. » Vous voyez, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi. Selon les circonstances différentes, la sagesse va nous permettre de soit de répondre à l'insensé, soit de ne pas répondre à l'insensé. Alors, si on lit le livre des Proverbes avec cette vision de dire « je vais lire les Proverbes, je vais apprendre des règles », eh bien, ça ne va pas marcher comme ça. Par contre, lorsque je lis les Proverbes, je vais essayer de comprendre quelle est la profondeur derrière les Proverbes, qui va me permettre de me guider dans les diverses situations que je peux traverser. Alors, jeune chrétien, j'ai été témoin d'une scène. J'ai été jeune chrétien, vous savez. Je ne suis pas né chrétien, mais j'ai été jeune chrétien. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans. Et nous avions à l'époque, le petit groupe, toujours le désir d'apprendre davantage du Seigneur. Et nous allions à des conventions. Et je me rappelle, une des premières conventions, c'était d'aller à Vichy, écouter M. Jaillet, qui est le papa de Marie Orcel. Et nous étions trois dans une voiture, une 4L qui était flambant neuve, qui était vraiment le top de ce que pouvait se faire à cette époque. Voilà, 4L. Maintenant, c'est un objet de collection, hein, et je ne sais pas combien ça coûte, une 4L, mais voilà. Il y avait le propriétaire de la voiture, et il y avait son ami qui était à droite, son passager, et puis moi, j'étais derrière, j'étais le plus jeune, j'avais 15 ans. Donc, c'est normal que je m'étais mis derrière. Et voilà que le propriétaire de la voiture... mais une cassette de musique. Il avait un autoradio. Ça aussi, c'était quand même quelque chose de formidable, quoi, l'autoradio. On met la cassette. Et c'était une cassette de rock chrétien. À l'époque, on n'écoutait pas de rock chrétien. Et le passager à côté a commencé à... dans notre midi, on dit rouméguer. À rouméguer. Mais quoi, tu écoutes de la musique rock, mais c'est pas bien, mais c'est pas droit, tu salis ton cœur, tu salis tes pensées, c'est de la musique du diable, etc., etc., etc. Et il s'était mis une loi en lui-même, en disant, le rock, c'est pas bien. Et le propriétaire de la voiture a dit, mais c'est ma voiture, c'est mon autoradio, c'est ma cassette, et j'écoute ce que je veux dans ma voiture. Voilà. Lui aussi, il avait une règle et il avait une loi. Moi, j'étais derrière, j'ai compté les points, hein, entre les deux. Alors, arrivé à Vichy, on avait tous mal à la tête. Parce qu'il a manqué de la sagesse dans ce parcours. Quelques années plus tard, j'aurais pu peut-être, et ses frères aussi auraient pu peut-être répondre favorablement. Je ne vous donnerai pas la réponse. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans votre cas? Vous êtes le propriétaire de la voiture, c'est votre autoradio, c'est votre cassette. Hein, et l'autre à côté, c'est dans mon droit, je fais ce. Il me semble que c'est pas bien d'écouter de la musique rock, etc. Qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà. Chacun avait sa loi. La loi ne dit rien dans tel cas. La sagesse aurait pu dire quelque chose. Allez, je vous laisserai réfléchir, vous, qu'est-ce que vous aurez fait. Alors, vous voyez, l'acquisition de la sagesse n'est pas simplement l'acquisition de règles morales à appliquer scrupuleusement. Il y a des gens très droits, mais ils sont tellement droits, qu'ils sont tellement rigides qu'ils ont besoin de sagesse pour avoir des relations qui tiennent le coup. Hein ? Il y a encore l'acquisition de la sagesse, selon les proverbes, n'est pas seulement l'acquisition d'un savoir. Hein. On peut être un puits de science sans avoir de la sagesse. Nos scientifiques ont fait de nombreuses belles choses, et ils en feront sûrement encore beaucoup d'autres, mais de nombreuses choses ont été faites sans sagesse, et puis on voit les pots cassés jusqu'à maintenant. L'acquisition de la sagesse n'est pas non plus l'acquisition d'un courage ou d'une force intérieure. Même dans les films, les super-héros ont besoin d'un second pour leur dire « Attends, ne fonce pas la tête baissée, tu vas dans un piège. Hein » Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse est un chemin d'apprentissage davantage qu'un état. Alors désolé mes amis, désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas nés sages. Et la sagesse n'est pas quelque chose d'inné en nous. Je dirais que c'est même le contraire qui est vrai. Alors, j'avais une voiture, j'ai encore parlé, je ne me rappelle plus quelle voiture c'était, mais chaque fois que je laissais le volant, vous savez, normalement, une voiture, si vous laissez le volant, ça va tout droit. Hein. Mais moi, quand je laissais le volant, hop, ça partait sur la gauche, et il fallait que je rattrape. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de parallélisme, les mécanos me diraient, ou si c'est un problème lié. Voilà. En fait, nous sommes, en tant que voiture, permettez-moi l'image, nous sommes toujours portés sur la folie. Nous sommes toujours portés vers la sagesse, hein, vers être insensé, vers la folie. Si c'est pour moi, je ne suis pas là, hein, je suis occupé. Hein. La sagesse est un chemin d'apprentissage, davantage qu'un état. Et cet apprentissage va se faire par le biais de l'écoute, par la fréquentation aussi d'hommes qui sont plus sages que nous, par la réception de conseils, par la réception aussi de correctifs, de corrections, par une discipline. La sagesse est une école de vie que nous sommes appelés à fréquenter toute notre vie. Nous y sommes tous conviés, jeunes, insensés, hommes avisés et sans expérience. Quelle différence entre la sagesse biblique et la sagesse populaire ? Alors la sagesse biblique n'est pas non plus une sagesse populaire ou intuitive qui découle de l'expérience. Chaque peuple, chaque culture cultive sa propre sagesse. On parle de la sagesse orientale, nous connaissons tous des proverbes chinois, n'est-ce pas? Toutes les cultures ont créé des proverbes. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, les premières minutes de classe à l'école était consacré à l'apprentissage de la morale. Hein, et on apprenait souvent la morale qui était liée peut-être à Jean de La Fontaine. Hein, c'est Fred qui nous a parlé que Jean de La Fontaine a copié les proverbes. Voilà. Donc la culture française, ma culture française a été, je dirais, bercée durant mon école par des... voilà, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, voilà, etc., etc. Ma mère, une femme sage de 93 ans, lorsque sa mémoire lui permet, me sort, nous sort, sort à ses enfants, souvent des proverbes du style, par exemple, alors j'essaye de le dire en espagnol, mais, je m'appelle Garcia, mais l'espagnol n'est pas ma langue maternelle. Hein. Elle dit « Réunion des horas, perdition des galinas ». Alors maman, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand les renards se regroupent, eh bien, malheur aux poules. Voilà ce que ça veut dire. Alors, elle nous dit ça sans cesse, ça. Alors, la leçon de ce proverbe, c'est que quand les méchants se mettent ensemble, eh bien, les gentils, ils en prennent plein la figure, hein, voilà, pour être poli. Alors, il y a de la sagesse populaire. Mais quelle est la différence entre la sagesse populaire? Je suis sûr qu'en Afrique aussi, ils ont des proverbes intéressants, parce que leur culture est orale, et il y a des proverbes aussi. Quelle est la différence entre culture populaire, sagesse populaire et sagesse des proverbes, sagesse divine, sagesse biblique? Alors j'ai lu dans l'introduction à l'Ancien Testament, une phrase qui m'a plu. La relation précède l'éthique. Voilà, c'est l'introduction à l'Ancien Testament d'Exercis sur le livre des Proverbes. Ça en jette, hein? Ça en jette. Il a dit oui. Ce matin, le Seigneur, alors pour bien l'expliquer, le Seigneur nous a rappelé que ce qu'il attendait de nous, c'était quoi? C'était qu'on pose là notre tête sur son cœur, hein? De venir se cacher en lui. Le Seigneur attend que nous ayons une relation avec lui. Et c'est ce qui en découle, c'est la sagesse. C'est le comportement changé. C'est l'art de vivre. Mais d'abord, voilà, la relation précède l'éthique. Je vais reprendre Fred dans son introduction. La sagesse biblique est liée, engendrée, provoquée, induite par la relation au Seigneur de l'Alliance. Le mot employé dans le livre des Proverbes pour désigner Dieu est Yahvé, que l'on traduit par l'Éternel, c'est-à-dire le nom que Dieu se donne lorsqu'il veut en rentrer en relation avec les hommes. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est Elohim, le Dieu qui a créé l'univers. Mais dans le livre des Proverbes, c'est le Dieu qui veut rentrer en relation qui se dévoile. Tu veux apprendre la sagesse, alors commence à rentrer en relation avec moi. Tu veux bien conduire ta vie, alors commence à rentrer en relation avec moi. Passe du temps sur mon cœur, passe du temps à être caché avec moi, passe du temps devant moi. Alors, le verset clé qu'il vous faut apprendre par cœur, c'est le verset 7 du chapitre 1. Tu peux passer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà. Vous devez lire 31 chapitres, mais retenez ce verset-là, parce qu'il résume ce qui est dans le livre des Proverbes. Que veut dire la crainte du Seigneur? Ça ne veut certainement pas dire avoir peur du Seigneur ou être effrayé par le Seigneur. On en discutait avec Jean-Hugues hier matin dans le bureau. Ça ne veut pas dire tout cela. Alors, je ne trouve pas de meilleure illustration que ce que nous avons vécu ce matin lorsque nous avons chanté « Majesté, Majesté ». Ésaïe voit le trône de Dieu, chapitre 6 d'Ésaïe. Le pan des vêtements du Seigneur sont dans le temple de l'Éternel. Ésaïe entend des voix, ce sont des chérubins qui se crient les uns aux autres, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Il est là, il entend la fumée, il entend les voix, il est environné de fumée, il y a les portes du temple qui tremblent, qui bougent. Et pourtant, Ésaïe est là, il est au milieu de cette vision-là, et il y a un magnétisme incroyable qui s'opère en lui. Il est en présence de Dieu, il est à la bonne place dans la présence de Dieu. Hein? Il ne cherche pas à s'enfuir. Il regarde, il est attiré par cette vision. Puis au bout d'un certain temps, il comprend ce qu'il voit. Il voit Dieu tel qu'il est. Et là, c'est marqué, il s'écrit. Moi, quand j'avais commencé à écrire, j'avais écrit, il se dit. Non, c'est pas il se dit, il s'écrit. Il s'écrit. Il s'écrit. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Et j'ai vu le roi, et j'ai vu le roi. Et là, quelque chose d'extraordinaire, moi je me tombe à genoux chaque fois que je le lis, c'est marqué qu'il y a un chérubin qui vole vers lui, un chérubin qui vole vers lui, qui tient dans sa main une pincette et un charbon ardent qui touche ses lèvres, voilà, et qui lui dit « Maintenant ton péché est expié, ta faute est enlevée. » Waouh! Et après, il entend cette voix « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi ?» Et Esaïe dit « Me voici, envoie-moi. » Gérard nous a parlé de ce va-et-vient ce matin. La crainte de l'Éternel, c'est voir Dieu tel qu'il est, c'est se voir tel que nous sommes, c'est être saisi par la grâce, c'est aimer Dieu, c'est vouloir se détourner du mal, c'est vouloir lui obéir. La crainte du Seigneur commence par quand je suis attiré par lui, parce que je sais que c'est ma place, que je prends conscience qui je suis, et alors je me retire, mais en même temps Dieu vient vers moi et m'accueille par sa grâce. Alors je me mets à genoux, humblement, rempli d'amour à cause de cette grâce et de cette sainteté, et je me mets à son service. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Cette relation qui commence en présence de Dieu. Alors, vous voyez, ce qu'on a vécu dans la louange, c'est en chantant « Majesté, majesté », nous étions vraiment dans cette crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit tout dans ce chant. Il dit cette attirance que nous avons pour le Seigneur. En même temps, on s'aperçoit que cette attirance-là nous fait nous reculer parce qu'on s'aperçoit de notre péché, mais en même temps, on s'aperçoit cet ange qui vient vers nous, ce sacrifice de Jésus qui vient et qui nous couvre, qui couvre nos péchés. Et puis on tombe à genoux et on lui dit, Seigneur, me voici, me voici. Vous savez, je me suis rendu compte en préparant ce message que la plus grande puissance pour nous délivrer, pour me séparer de mon péché, ce n'est pas la description de la laideur de mon péché, ni même la description des conséquences néfastes liées à mon péché. C'est la description de la beauté, de la grandeur, de l'amour de mon Sauveur qui m'attire. Quand j'étais gamin, jeune chrétien, il y avait un champ de pâturage. On revient toujours à cela. Pâturage, ça n'est jamais démodé. Si vous pouvez avoir l'occasion d'écouter pâturage, faites-le. Et Christian Gonzalez chante ça magnifiquement. Il dit, sur la croix, vois ton Sauveur, pour que tu vives, c'est lui qui meurt. Sur la croix, vois ton Sauveur, pour que tu vives, c'est lui qui meurt. Mais moi, à chaque fois que j'écoutais cette chanson, et encore quand je l'écoute, eh bien, il y a une émotion extraordinaire. Et parce que je vois mon Sauveur, parce que je vois la beauté de son sacrifice, eh bien, je veux dire, moi, mes péchés, j'ai envie de m'en détourner, parce que je veux être près de lui, voyez. Je pourrais vous décrire que c'est moche le péché, c'est moche le péché, que ça va avoir des conséquences néfastes sur vos vies. Et c'est vrai que ça va avoir des conséquences néfastes sur vos vies. Il y a la publicité pour le tabac. Le tabac est un exemple là. Je ne dis rien pour ceux qui fument, d'accord ? Voilà, le Seigneur leur dira en amenant à Jésus à la croix, d'accord ? Et la publicité sur le tabac, maintenant on a des... voir une augmentation du prix du tabac, là, hier ou avant-hier. Et sur le tabac, il y a maintenant des photos de ce qui se passe dans vos corps lorsque vous fumez. Les poumons, ça, c'est vraiment crado. Voilà. mais les gens continuent à acheter. Peut-être que si on faisait la promotion d'une vie saine, d'une vie à la campagne, hein, peut-être ça marcherait davantage plutôt de détruire ce que fait le tabac en nous. Il y a de plus en plus de enfin, non, je crois quand même le nombre de gens qui fument a diminué quand même, parce que l'argent ne suit pas. Mais quand même, voilà. Moi, je crois que pour nous débarrasser de nos péchés, il nous faut aller voir la beauté et la grandeur de notre Seigneur et de notre Sauveur. La crainte du Seigneur, c'est cette maturité où nous n'avons plus besoin de listes fastidieuses à faire ou à ne pas faire. C'est plutôt lorsque nous sommes motivés par ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous savons ce qu'il convient de faire ou ce qu'il ne convient pas de faire, juste parce que nous avons été en présence de Dieu et parce que nous aimons le Seigneur. Je le redis, la crainte du Seigneur, c'est cette maturité où nous n'avons plus besoin de listes fastidieuses. Tu dois pas. Hein ? Mais nous sommes tellement entrés en relation avec le Seigneur. Notre tête s'est tellement mise sur son côté qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de nous. Et que nous savons, de manière spirituelle, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Parce que juste, nous avons vu Dieu, le roi, et que nous l'aimons. La crainte du Seigneur, c'est quand nous réalisons, eh bien, je ne suis pas à la mesure de toute chose, ce n'est pas moi qui suis au centre de l'univers, c'est le Seigneur, c'est le roi. Et c'est à ce moment-là que la sagesse divine commence en moi. Toutes mes situations de vie, je les place en regard devant le Seigneur. La sagesse m'est donnée, la sagesse est comme un don. Je devine, je ressens, je suis inspiré, je suis motivé. Je sais ce qui est bon ou pas. Je suis attristé quand je fais mal, je demande pardon et je suis pardonné et je pardonne. Je me réjouis du bien, je désire le bien, j'aspire à Dieu. Je me soumets à lui, je me soumets aux frères, je cherche conseil, j'écoute. Je ne veux pas faire de choix, que les choix qui soient agréables au Seigneur. Et c'est comme une couronne sur ma tête, c'est comme des colliers à mon cou. Et cela me rend beau et agréable. Une personne sage qui est en contact avec le Seigneur, il va dégager un parfum extraordinaire. Alors c'est un chemin à suivre. Et ce chemin à suivre, je marche derrière mon conseiller, je marche derrière mon coach en sagesse, parce qu'il a l'esprit de sagesse, notre Seigneur. Ça va ? Est-ce que je peux parler encore 5 minutes ? Oui ? Quelle différence encore entre la sagesse populaire et la sagesse divine ? Je dirais, il n'y a pas photo. La sagesse populaire cherche un sens à sa vie à partir de soi. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est le centre, il réfléchit à partir de soi, il décide ce qui a sens ou pas sens. Certains mêmes hommes ont dit que la vie n'a pas de sens, mangeons et buvons car demain nous mourrons. D'autres ont dit la vie n'a pas de sens, mais c'est nous, par notre action, par nos prises de position, nous lui donnons du sens. C'est la sagesse populaire, la sagesse terrestre. La sagesse divine, elle vient d'en haut, de l'extérieur de nous. C'est pour cela que dans le livre des Proverbes, on voit la sagesse toujours qui crie. Elle crie, elle élève la voix, elle est toujours à la croisée des chemins et elle crie, elle attire notre attention. Ce n'est pas une voix simplement intérieure, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous et qui nous appelle, elle nous interpelle, elle veut s'en faire entendre. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, nous dit: confie-toi en l'Éternel, et vous connaissez la suite, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Non, c'est pas ça. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est juste ce que tu as dit, Roselyne, quand même. Hein. Voilà. Voilà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hein. Et Jacques nous rappelle qu'il y a deux sortes de sagesse et qui sont en concurrence. Il les appelle la sagesse d'en haut et puis la sagesse qui est terrestre. Et il va dire non spirituelle et démoniaque. Alors, vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre, quand Pierre lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller à la croix. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre ? Arrière de moi, Satan. Hein ? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il n'y avait pas encore une pensée qui nous disait que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées ? Merci Francis. Pourquoi Pierre s'est-il fait rabrouer de cette matière ? Parce qu'il a compris la situation que Jésus vivait avec sa sagesse qui était naturelle, la sagesse du peuple, compréhensible par l'homme, comme par exemple, tu dois vivre, Jésus, coûte que coûte. Ça, c'est la sagesse. Lorsqu'on est en danger, mais il faut que tu vives. Vis. Hein ? Pierre était sage avec la sagesse qui était terrestre. Elle était en opposition avec la sagesse du plan du Seigneur. Incroyable quand même. Elle est sage, la pauvre veuve qui met une piécette dans le tronc du temple alors qu'il ne lui reste plus que ça pour vivre. La sagesse de ce monde aurait dit, ben garde ta piécette hein, pour payer quand même ton loyer à la fin du mois. Elle l'a mis dans le tronc. Chantal discutait avec nous à table, il dit, mais je ne sais pas si en période de famine, je pourrais couper ma pomme de terre qui reste en cinq. Comme maintenant, on est plus que cinq dans la famille avec les petits-enfants. Il est sage. Notre ami Frédéric, lorsqu'il dit qu'il doit remettre tous ses soucis, alors qu'il aurait pu eh bien, faire en sorte que tous ses soucis soient réglés dans la journée. Il est fou, celui qui croit en mettant une grosse somme d'argent devant les apôtres, croyant pouvoir acheter là une place d'honneur dans la communauté de l'Église. Il est sage, celui qui porte sa croix et qui meurt lui-même pour vivre pour Jésus-Christ. Il est sage. Il est fou, le jeune homme riche, qui refuse l'appel de Jésus à tout quitter pour le suivre. Alors il est temps pour moi de conclure, mais pas avant de vous expliquer la différence entre un homme sage et un homme insensé, puisque le verset 7 nous le précise. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je vais vous donner une expression qui est synonyme du verbe mépriser, c'est-à-dire prendre de haut. Quelqu'un qui méprise quelque chose, c'est quelqu'un qui le prend de haut. C'est-à-dire quelqu'un qui se croit au-dessus du panier. Hein ? Quelqu'un qui méprise, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a besoin de rien, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Ça, c'est l'insensé. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. L'insensé se croit parvenu, rejette la discipline, rejette les conseils. Il a vraiment besoin de personne. Mais le sage, lui, supporte la correction. Il recherche, il accepte les conseils. Il sait au fond qu'il en manque de la sagesse, parce que le sage n'est jamais arrivé, parce qu'il recherche la relation avec celui qu'il appelle Seigneur et Maître, celui que le Nouveau Testament appelle sagesse de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour commencer à devenir sage, frères et sœurs, ou pour continuer à marcher sur le chemin de la sagesse, il n'y a qu'un seul moyen, voir Jésus, l'écouter, se mettre encore à son école et apprendre de lui. Prions. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous as donné ce matin, au pied de ton trône. Tu nous as appris qui tu étais, tu nous as appris qui nous étions, tu nous as couverts par ta grâce et tu nous appelles à te servir. Seigneur, nous voulons marcher dans ce chemin de sagesse où toutes nos décisions, tous nos choix, Seigneur Jésus, eh bien, sont placés devant toi et nous te demandons, Seigneur, conduis-nous, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Seigneur Jésus, on ne veut pas s'appuyer sur notre propre sagesse qui découle de nos expériences ou de nous-mêmes. On veut s'appuyer sur ce qui vient de toi. Seigneur, ta sagesse, elle crie à nos cœurs et encore elle crie à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on veut te suivre. On veut l'écouter. On veut, Seigneur, sortir de notre paramètre par défaut. On ne veut pas marcher dans le parallaxe. On veut marcher droit dans la droiture, dans l'équité. Seigneur, marche devant nous. Seigneur, donne-nous du temps pour apprendre, Seigneur Jésus, à mettre nos têtes sur ton cœur. Seigneur, parle-nous de toi, de ta beauté, de ta grandeur. Seigneur, et que tout ce qui nous lie au niveau du péché tombe. 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 Que les écailles de nos yeux tombent. Que mon péché tombe. Sur la croix, vois ton Sauveur, pour que tu vives, c'est lui qui meurt. Amen.